France Culture.
France Culture. La Fabrique de l'Information, François Seltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Dans quelques jours, la date du 13 novembre va frapper et nous allons commémorer les 10 ans des attentats. Un événement traumatisant qui nous a tous touchés, de près ou de loin. Nous avons chacun des manières différentes de réagir à l'approche de cette commémoration, entre l'évitement ou le besoin de se retrouver, d'en parler pour ne pas oublier. Faire œuvre de mémoire, c'est une des missions de nos médias et des chaînes de télévision qui cherchent des formes pour raconter cette histoire en articulant la dimension intime et collective. Des formes comme un documentaire qui a puisé dans des centaines de témoignages de victimes, plus ou moins directs, recueillis dans le cadre d'un projet scientifique. Ils éclairent avec force sur nos vies en éclats. Du documentaire à la fiction, nous parlerons de la série Des Vivants, actuellement en diffusion sur France Télévisions, qui se nourrit de témoignages et d'éléments d'archives pour coller au plus près de la réalité de celles et ceux qui tentent de se reconstruire au lendemain du 13. Nous reviendrons également sur la manière dont les médias ont couvert l'événement et ont participé à la cristallisation de nos souvenirs. Enfin, la grande question sera celle du rôle de l'émotion qui irrigue l'ensemble de ces récits. Dans quelles conditions peut-elle faire mémoire? Quatre invités pour en parler. Valérie Mans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice du documentaire que je viens d'évoquer, 13 novembre, nos vies en éclats. Il a été diffusé lundi soir sur France 2 et le sera de nouveau vendredi prochain sur France 5. Vous nous parlerez de votre travail de sélection et de mise en image autour de cette matière testimoniale exceptionnelle. À vos côtés, Jean-Xavier Delestrade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de la série Des Vivants qui raconte en 8 épisodes le retour à la vie d'anciens otages du Bataclan et de leurs défis pour tenter de se reconstruire. La série a démarré ce lundi, sa diffusion en prime time sur France 2. Merci d'être avec nous. Pour nous offrir une perspective socio-historique, nous pourrons compter sur Sarah Ginsburger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS en sociologie et spécialiste de la mémoire. Vous avez notamment co-dirigé avec Jérôme Truc l'ouvrage Les Mémoriaux du 13 novembre. Enfin, Marie Chagnoux complète ce plateau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et vous avez travaillé sur le traitement médiatique des attentats du 13 novembre 2015. Pardon. Comme chaque semaine, nous retrouverons un journaliste de Courrier International, notre partenaire, qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère aujourd'hui. Daniel Bastard est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour François.
Avec une chronique consacrée à...
Alors nous allons partir en République tchèque pour voir comment on peut traiter les syndromes de stress post-traumatique.
Voilà le riche programme de l'épisode 10 de La Fabrique, le 10e déjà. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en direct, en podcast ou sur les réseaux sociaux de France Culture, de YouTube à TikTok où nous sommes diffusés en direct et en images. Joséphine Reinhardt qui prépare avec talent chaque semaine La Fabrique de l'Info est prête à recueillir toutes vos questions.
Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Nous sommes en édition spéciale après les informations terribles de la soirée et ces nombreuses fusillades dans Paris et ces deux explosions au Stade de France.
J'ai très vite entendu les sirènes des véhicules de secours et ça a été très très compliqué tout au long de cette soirée d'ailleurs, d'essayer de reconstituer le fil des événements. On n'a pu vraiment le faire qu'après.
À France Inter, on ne sauve pas des vies, on n'arrête pas des terroristes. Mais dans un moment comme celui-là, c'est essentiel de savoir ce qui se passe. Alors avec mes collègues, on est tous revenus travailler.
Philippe Cohen-Grillet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste de terrorisme. Vous êtes l'auteur d'un livre enquête sur ce que vous appelez un mensonge d'État. Nos années de plomb du Caire au Bataclan, autopsie d'un désastre.
13 novembre 2019, comment en parler 4 ans après?
Oui, pour chaque date anniversaire, on se pose cette question dans les rédactions. On a choisi de retracer le film de cette nuit d'horreur à travers les médias qui l'ont couverte. Ce choix a fait débat, on en a tous parlé. Ici à Quotidien, on n'avait jamais fait ça. Mais revoir le film du 13 novembre, c'est selon nous la seule façon de ne pas oublier tout ce qui s'est passé ce jour-là.
Ce qu'on peut dire, c'est que 5 ans après, la douleur, elle est toujours là. Stéphanie, qui est aussi interviewée par le journal Libération aujourd'hui, pendant longtemps, elle était incapable de se concentrer. Elle a dû quitter son travail. Ce sont des symptômes du stress post-traumatique qui modifient le fonctionnement du cerveau. Une meilleure prise en charge, cela dit, permet d'en guérir. Donc cela suscite quand même de l'espoir.
Voilà, de l'espoir. On en parlera sans doute au cours de cette émission. Valérie Mans, j'aimerais pour démarrer que l'on commence avec le programme 13 novembre. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui ne connaissent pas ce programme-là. Il a été à la base de votre documentaire. Vous pouvez nous expliquer en quoi il consistait, ou même plutôt en quoi il consiste, parce qu'il est toujours en cours.
Absolument. Alors le programme 13 novembre, c'est un programme de recherche dans lequel il y a 20 laboratoires et 200 chercheurs. Il y a un volet en sciences humaines, dirigé par Denis Péchanski, et un volet en neurosciences, dirigé par Francis Eustache, qui travaille sur le syndrome du stress post-traumatique. C'est un programme unique au monde et exceptionnel dans son ampleur, puisque à trois moments différents, en 2016, donc 7 mois après les attentats, en 2018 et en 2021, 1000 personnes ont été filmées et ont fait des entretiens dans lesquels ils ont raconté minute après minute ce qu'ils avaient vécu la nuit du 13 novembre. Ce sont des personnes qui appartiennent à 4 cercles différents. Le premier cercle, c'est les rescapés, tous les intervenants professionnels, les pompiers, les secouristes, les médecins et les familles endeuillées. Le deuxième cercle, ce sont les habitants des quartiers touchés, qui ont évidemment vécu de plein fouet les attentats et notamment les mois après, comment on vivait avec la mémoire de ce qui s'était passé. Le troisième cercle, c'est l'Île-de-France. Voilà, c'est l'idée que Paris soit attaqué. Et le quatrième cercle, c'est la province. Et là, c'est des entretiens qui ont eu lieu à Metz, à Caen et à Montpellier.
En parlant de Metz, pardon, on reviendra sur la suite juste après avec vous, Valérie Mans. Mais Marie Chagnou, vous avez participé également à ce projet, notamment aux des entretiens qui ont été menés à Metz sur donc ce quatrième cercle, c'est-à-dire ceux qui sont le plus éloignés physiquement des événements.
Tout à fait. Donc moi, j'ai été enquêtrice pour ce programme dès le départ. On a fait la première phase d'entretien en 2016, pardon, et on fera la dernière vague d'entretien, normalement, si on obtient encore les crédits, en juin 2026. Voilà.
Valérie Mans, donc on comprend bien la force aussi de ce programme, bon, c'est déjà à son échelle, hein, 1000 participants, vous l'avez dit, 2016, 2018, 2021, il y aura une prochaine, voilà, en 2026. Comment ensuite vous avez travaillé, c'est-à-dire que vous avez eu à disposition tous ces témoignages-là, et ensuite vous avez fait un travail de sélection pour fabriquer, pour réaliser votre documentaire qui dure qu'une heure, donc il a fallu faire un grand choix.
En fait, la somme de ces entretiens, c'est 4500 heures. Il y a 40 000 pages de retranscription. Et donc, j'ai travaillé avec le CNRS, avec Karine et Denis Péchanski, des chercheurs. Je voulais vraiment travailler sur les blessures intimes et sur la manière dont les témoins pouvaient se reconstruire. Et donc, j'ai établi un certain nombre de critères de ce que je cherchais. Je voulais autant de femmes que d'hommes, de 3 générations, des personnes de milieux sociaux différents, des personnes qui n'avaient jamais parlé, à part une exception, ce sont tous voilà, des anonymes. Je souhaitais que ce soit des personnes qui aient vécu les attentats dans tous les lieux, puisqu'en fait, la mémoire collective s'est cristallisée sur le Bataclan. Mmh. Donc, je souhaitais qu'il y ait le Stade de France, les terrasses et le Bataclan. Et je souhaitais aussi que ce soit des personnes des 4 cercles, puisque l'idée est de montrer à travers ce film l'onde de choc qu'ont été ces attentats dans toute la France. Et donc, en discutant avec les chercheurs, en affinant tous ces critères, 165 profils ont été proposés. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler. Et j'ai dû écouter ou lire à peu près 120 entretiens, c'est-à-dire 300 heures d'entretien. Mmh. Et peu à peu, j'ai cherché à créer un récit collectif à partir de récits individuels, en me posant vraiment la question de comment, à partir d'une expérience singulière, on peut créer un récit collectif. Et donc, ça a été évidemment très difficile de faire ces choix. Et j'ai vraiment choisi des témoins qui soient des porte-paroles, qui puissent être des passeurs, en fait. Mmh. Il y a 27 témoins. Et pendant 1h38, il y a ce travail qui a été fait de faire en sorte qu'il y ait un écho très fort entre chacun d'entre eux.
Vous l'avez dit, hein, toute la problématique justement est là, hein, d'une histoire personnelle, individuelle, comment faire un récit collectif. Sarah Ginsburger, quel regard vous portez, vous qui êtes spécialiste de la mémoire, par rapport à cette expérience, à ce programme, en fait, assez exceptionnel, le programme 13 novembre ?
Je voulais d'abord préciser pour que les auditeurs comprennent pourquoi il y a ces vidéos. C'est parce que, on l'a pas dit encore, le programme est d'emblée un programme patrimonial, puisque c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a réalisé, et le CPAD, qui ont réalisé les films. Donc les films sont d'emblée vus comme des archives au départ, les films des entretiens. Et ça, c'est quelque chose, je pense,
vous avez
important de le préciser.
Oui, parce que je crois que ce programme se basait aussi sur une expérience comparable avec le 11 septembre aux États-Unis en 2001, où il y avait énormément aussi de témoins de victimes qui ont été interviewés. Ils n'ont pas été interviewés, c'était par écrit. Donc il n'y avait pas cette image à la base. Et là, effectivement, comme vous dites, il y a déjà l'archive à la naissance même du projet.
C'est pour ça que c'est aussi un projet unique en son genre, parce qu'il est à la fois scientifique, mais il a aussi... ce qui est original pour des scientifiques, parce qu'on fait rarement ça, il a aussi comme but de participer lui-même à la construction d'une mémoire. Et ça, c'est une posture un petit peu différente de la recherche traditionnelle, où c'est rare qu'on influe en même temps sur son propre objet de recherche. Donc il fait les deux en même temps, puisque ces entretiens qui sont collectés, analysés par des chercheurs, sont aussi, par exemple, donnent lieu à ce documentaire que je dois dire que je n'ai pas encore vu, mais que je vais voir très rapidement. Et donc, ils participent aussi d'une forme de récit collectif. Récit collectif que le programme étudie également. Donc, c'est vraiment circulaire de ce point de vue-là.
Et c'est vraiment une des très grandes singularités de ce film, 13 novembre, Nos vies en éclats, c'est que comme ces images n'étaient pas du tout destinées à être diffusées, puisque c'est dans le cadre d'un programme scientifique, elles sont exceptionnelles dans la mesure où les volontaires ont une liberté absolue. Ils ont une authenticité, ils ont une... ça fait 16 ans que je fais des films, j'ai dû faire une vingtaine de documentaires. Et jamais je n'ai été face à une telle qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est non seulement colossal dans la matière, 4500 heures, mais c'est aussi dans la qualité vraiment de ce qui est dit, de l'émotion et du détail de tout ce qui est raconté.
De l'émotion, d'autant plus que vous venez de le dire, comme ils ne le savaient pas, que ces vidéos, ces images pourraient être diffusées un jour. Il n'y avait pas tous les biais qu'on peut imaginer, même sur l'image qu'on peut avoir de soi-même, en essayant de représenter quelque chose lorsqu'on sait qu'on va être vu à grande échelle. Jean-Xavier de Lestrade, vous, c'est sur l'angle de la fiction que vous avez abordé ces événements, ces attentats, mais vous avez énormément travaillé avec les otages du Bataclan, notamment. Comment elle s'est déroulée, cette collaboration avec les victimes, les témoins?
Je me suis rendu, très très vite, je me suis rendu compte que dans ce projet de série et projet de fiction, mais à cause du sujet, à cause de ce que l'on connaît, il fallait rester très proche du récit des personnes réelles. Il ne fallait quasiment rien inventer. C'est la fiction, c'était le montage. C'était ce qu'on allait choisir, ce qu'on allait découper. Et donc, j'ai fait un peu, finalement, ce que l'expérience 13 novembre, l'expérience, le programme universitaire, c'est qu'on a pris les témoins à un moment donné, qui est 7 ans et demi après les faits. J'ai dit avec Antoine Lacomblaise, le scénariste, on s'est dit, on va les écouter, prendre le récit en note de manière très précise, mais on ne va pas aller confronter le récit avec autre chose. Non, ça va être une forme de témoignage de leur histoire à 7 ans et demi après les faits. Et forcément, ils ne se souviennent pas. Si on les avait interrogés 6 mois après ou 1 an après, ça aurait été des récits différents. Là, il y avait toute la perspective aussi de ce qu'ils avaient vécu depuis. Mais on ne pouvait pas faire... Enfin, finalement, on ne pouvait pas faire tellement autrement que de rester vraiment dans leur pas et à hauteur de leur récit, quoi. Donc... la série témoigne aussi de ça. Finalement, c'est une mémoire, à un moment donné, de ce que ces 7 personnes-là se sont souvenues et ont bien voulu nous raconter aussi, parce qu'il y a évidemment ce filtre-là. Mais sachant que ce n'est pas non plus un documentaire, et du coup, le fait que ça soit une fiction, ils se sont sentis très à l'aise, très presque beaucoup plus libres que même s'ils parlaient à leur psy ou à je ne sais qui, à quelqu'un de l'entourage et tout ça. Il y avait finalement quasiment pas de filtre parce que je disais mais je vais être représenté par un comédien, tout ça. Il y aura cette distance et du coup ils sont livrés sur eux, sur leur propre intimité, sur ce qu'ils avaient vécu, de manière assez très surprenante, en tout cas.
Donc la fiction, selon vous, en tout cas, et votre expérience, a apporté aussi un cadre de liberté et de libération justement de la parole, ce qu'il y a dans les deux projets à vous écouter, des situations en fait qui ont permis justement une parole rare, authentique, à la fois représentée par des comédiens, mais issue d'un contenu et d'un propos d'une authenticité forte, et sur le process qu'on vient de décrire avec Valérie Mans, peut-être rapidement...
Rebondir pour dire que je me réjouis de vous écouter tous les deux par ce dialogue interposé, parce que c'est quelque chose de caractéristique. Donc quand on forme un souvenir ou quand on raconte quelque chose, on le raconte toujours à partir d'un certain statut, d'une certaine position d'énonciation. Et cette position-là, elle va avoir des conséquences sur la manière dont on va se raconter, ce qu'on va raconter, pas seulement de se dire qu'est-ce qui est racontable ou pas, mais même au-delà d'une considération morale ou de frontières, de toute façon, la manière dont on va se raconter va beaucoup dépendre de la situation dans laquelle on est pour faire ce récit et bien sûr du but qu'on se donne. Et par exemple, quelqu'un ne va pas du tout raconter la même chose à la barre pour témoigner dans un cadre d'un procès ou... Dans le cadre du procès du programme de recherche 13 novembre, il peut y avoir des différences. Bien sûr, ce n'est pas radicalement différent, mais des différences parce que la mémoire, c'est d'abord un point de vue. Sur ce qu'on raconte.
Et un point de vue évolutif, et d'ailleurs on le voit dans le documentaire, hein, selon les différentes périodes, les versions même peuvent changer, même si c'est la même personne qui parle de la même chose, 2, 3 ans ou 4 ans plus tard. Marie Chagnoux, on ne peut pas parler de mémoire collective sans évoquer la mémoire médiatique aussi autour de ces événements. Quel a été son rôle ?
Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'on va essayer d'aborder la mémoire collective à partir de la mémoire individuelle. Et moi, j'ai un intérêt particulier pour ce cercle 4 qui a été très bien défini tout à l'heure, à savoir la région ou les provinces ou comme on veut, mais qui représente en fait la majorité des Français. Et la majorité des Français a un souvenir médiatique de l'événement. Alors que le cercle 1 ou le cercle 2 va avoir plutôt une mémoire expérimentielle. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a senti, c'est ce qu'on a vécu à ce moment-là. Les gens qui étaient à distance n'ont eu connaissance des événements que par les médias, c'est-à-dire ce que les médias ont choisi de montrer, les victimes qui ont été sélectionnées et ce que chaque victime a voulu raconter ou a pu retenir. Par ailleurs, ces gens-là n'ont eu accès aux médias que par un filtre... des médias, également dans la manière dont les médias ont scénarisé. Et on a parlé de l'émotion, et je crois que tout le monde a été sensible à ça. On a vécu, sur le plan médiatique, quelque chose de très particulier à ce moment-là. Et ce matin, en écoutant France Inter, je me faisais la réflexion qu'on est encore, en fait, dans cette émotion-là, puisque ce matin, on entendait comprendre ce que les attentats ont changé en nous. Et non pas ont changé chez les Français. Le documentaire, il s'appelle « Nos vies en éclats ». Ça veut dire que les médias eux-mêmes s'incluent finalement dans les victimes au lieu d'avoir un regard surplombant qu'on a plus généralement dans des formations journalistiques où on nous apprend une déontologie où il faut prendre du recul. Là, on est vraiment dans l'émotion.
Ça, c'est une idée intéressante. Vous parlez même, est-ce qu'on peut parler de journalisme d'empathie à cet endroit-là ?
Tout à fait. Des chercheurs ont utilisé le terme, donc journaliste d'émotion, journalisme d'empathie. Vous avez un article remarquable d'un collègue Raphaël Baroni qui montre que certains médias comme Le Monde vont avoir un récit informatif. On nous donne le déroulé des faits. À telle heure, il se passe ceci, avec un vocabulaire qui est extrêmement neutre. Et puis, on va avoir des médias, il y a un article des Inroc notamment, où on est dans un récit immersif, immergé. On nous décrit l'odeur, on nous décrit tout ça, en maintenant un suspense qui fait qu'on n'est pas capable d'analyser, on n'est pas capable d'avoir du recul, parce qu'en fait, on retarde l'explication au plus long pour garder en fait cette atmosphère, cette tension qu'on veut transmettre.
Mais cette empathie, elle s'explique par quoi ? Par la proximité entre même l'emplacement des rédactions, l'emplacement même peut-être des journalistes qui vivaient dans certains quartiers de Paris, et le choc de cet événement. Je me rappelle moi aussi, en 2015, je travaillais déjà dans une émission sur France 4, puis il y avait beaucoup de rédactions qui témoignaient de la perte d'un membre de l'équipe, d'un menteur, d'une monteuse, etc. On sent que là, dans leur contexte socioculturel, finalement, les journalistes ont été touchés de plein fouet.
Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement le point de vue du journaliste. De la même manière que les soignants ou les forces de l'ordre ont pu l'exprimer, ce qui s'est passé ce soir-là n'est pas quelque chose pour lequel ils étaient formés. Il y avait des problématiques nouvelles et donc, Et on le voit dans le documentaire, des pompiers qui sont désorientés. Et nous, on l'a eu dans les entretiens également, des forces de l'ordre qui ne sont pas forcément, je ne parle pas de la BRI, etc., mais des gens qui ne sont pas formés. Et je pense que les journalistes se sont aussi retrouvés sur un terrain qu'ils n'avaient pas l'habitude de confronter, à savoir une ambiance de guerre avec des proches qui étaient touchés. Et ils étaient également touchés en tant que Français et ont peut-être eu plus de difficultés à prendre ce recul qui est normalement nécessaire quand on traite l'information. Et ce journalisme de l'empathie, il s'appuie aussi sur le fait que les événements étant à Paris, il y a quand même eu énormément de gens qui voulaient savoir si des proches ou ces gens qui connaissaient à Paris étaient touchés, dans quelle mesure il n'y avait pas un ami d'un ami ou un enfant ou quelqu'un ou un voisin.
Je me rappelle d'une une de Libération qui avait titré Génération Bataclan, mais qui avait aussi créé un peu une polémique à ce moment-là où beaucoup de gens s'est dit je ne suis pas de cette génération Bataclan, même si j'ai l'impression que il y a quand même une adhésion collective par rapport à autrement. De ces événements-là.
Alors, Génération Bataclan, je pense que ça a pu aussi heurter certaines personnes, et ça, c'est quelque chose qu'on entend en ce moment, à savoir que tout cristallisé autour du Bataclan, c'est d'une certaine manière nier l'existence d'autres victimes et d'autres lieux. Donc, il y a cet élément-là. Après, il est sûr qu'il y a eu un consensus et une forme de communion autour de ces attentats-là, qu'on n'avait pas eu au moment de Charlie Hebdo, où effectivement, on avait des gens qui disaient « Moi, je ne suis pas Charlie ». On n'a pas eu de manière aussi importante sur les réseaux sociaux, je ne suis pas Bataclan. Parce qu'au Bataclan, sur les terrasses, au Stade de France, les personnes qui ont été touchées n'ont pas été touchées à cause d'un métier ou à cause d'une religion, mais tout simplement parce qu'ils étaient sur le sol français. Et on a eu des victimes qui étaient des victimes musulmanes, on avait des gens qui étaient catholiques, etc. Et donc potentiellement, n'importe qui pouvait s'identifier à ces victimes.
C'est pas comment dire, c'est pas réel. Pourtant, ça a duré 2h30 hein, dans ce putain de couloir, mais si j'avais pas des brûlures dans le dos, je pourrais penser que je l'ai rêvé.
Je suis pas blessée, je suis pas morte, tout le monde peut pas m'en dire autant.
Moi, ce qui me revient sans arrêt, c'est l'odeur de la poudre.
Ceux qui étaient là, avec nous, qui nous fassent signe. Je voudrais vous revoir, c'est important.
Tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas mourir à cause d'un mec en jogging. Quand je dis, j'ai rendez-vous avec mes pototages, personne comprend. Et du coup, en fait, maintenant, je dis, les potages.
En vrai, on se doit la vie les uns aux autres.
Une bonne annonce donc de la série Des Vivants, réalisée par Jean-Dagué de l'Estrade. On est en train justement de s'interroger sur le nous, le vous. Comment on arrive d'une histoire personnelle à en faire un récit collectif en impliquant tout le monde sans peut-être oublier une partie ou une frange de la population. Est-ce que, Jean-Xavier, c'est la force de la fiction, ça peut être, d'arriver à tenter d'offrir des récits universels dans lesquels chacun peut éventuellement se projeter?
C'est l'idée, mais bon, j'entends bien, hein, effectivement, nous on a pris 7 ex-otages dans un couloir du Bataclan qui et ça a mis presque 15 mois pour qu'ils soient convaincus de participer à ce projet, les potages en question, parce que ils ne voulaient pas, ils se sentaient au départ dans une position d'imposture, en disant on ne peut pas parler pour les autres. Mmh. Et forcément, si on fait une série, une série qui va être beaucoup vue, montrée. On va peut-être que d'autres victimes vont dire, mais vous n'êtes pas forcément représentatif de toutes les victimes. Mais bon, c'était quand même une première difficulté. Mais le but, effectivement, forcément, c'est quand même tout de même de partir d'événements, de l'intime et de personnages pour raconter un peu. Tous et toutes. Mais pour revenir au récit, moi, pourquoi on a pris aussi ce groupe-là? Un, parce que ce sont les seuls dans cette nuit-là qui ont été en contact direct avec les terroristes, donc qui ont échangé avec les terroristes.
Ce qu'on voit très bien dans votre série, effectivement.
Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et après, le fait qu'ils sont passés comme ça pendant presque 2h30 dans un couloir très étroit, ensemble, sans se connaître, en dehors du couple qu'il y avait, mais sinon ils ne se connaissaient pas du tout, et qu'ensuite ils décident de se retrouver, ils mettent beaucoup d'énergie pour se retrouver dans la vie, se retrouver ensemble, et se retrouver ensemble, pourquoi? Parce que personne ne se souvenait de la même chose. Mmh. Alors qu'ils avaient vécu, la même violence, au même endroit, les mêmes faits, ils avaient besoin de se confronter, de confronter la mémoire de chacun pour reconstituer un récit collectif du groupe. Et le premier travail de, pour aller mieux, on va dire, c'est de reconstituer la mémoire et de véritablement qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que l'on avait subi, quelle violence avions-nous subi réellement. Et ça, c'était, c'est ça qui, je trouve, a été vraiment fascinant à documenter et à montrer.
On le voit très bien, effectivement, dans une scène au café où chacun arrive en puzzle à se dire « je me suis rappelé de ça, comment ça se fait que je ne m'en suis pas souvenu ?» Et on sent aussi, et d'ailleurs ça c'est le cas dans votre documentaire autant que dans la fiction, la nécessité de se parler entre nous, ceux du 13. Parce qu'il y a une incapacité de compréhension, même avec la famille très proche. Il y a ce besoin de se sentir finalement moins seul quand on est avec ceux qui ont vécu la même chose, sinon il y a comme une barrière infranchissable. Valérie Mans.
Oui, je voulais juste, avant de répondre à cette question, rebondir sur, c'est très intéressant, sur l'idée de parler ou pas pour les autres, parce que justement, moi, mon obsession a été de faire en sorte que ces volontaires puissent parler pour les autres, pour les morts, pour ceux qui n'ont pas pu parler. Et je crois que c'était pour faire œuvre de mémoire collective, c'était ça en fait l'enjeu, c'était que chaque témoin parle pour les autres, avec un récit très singulier. Et qu'est-ce qui fait qu'avec des récits singuliers, on parvient à créer la vérité d'une histoire collective ou d'une mémoire collective ? Pour ce qui est de la question d'être ensemble, effectivement, les associations ont joué un rôle absolument vital. Notamment Fred Deville en parle dans mon film, qui est, à un moment, il dit même qu'il ne peut avoir de nouveaux amis que ceux qui ont vécu le 13, et que c'est aussi un lieu de normalité. Ils sont tellement... Ce qui a été vécu est tellement hors norme que il est difficile de revenir dans le monde des vivants, il est difficile de revivre dans la société... Et à ce titre, d'être avec ceux qui ont vécu, même si chacun l'a vécu évidemment à sa façon, il y a une connexion qui se fait, et de nouveau, on est vivant en fait.
Oui, vous parlez justement de Fred, je vous propose tout de suite de l'écouter.
Pour moi, il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir parler et sentir, penser que les mots pouvaient aider. Je pense qu'il a d'abord fallu que je travaille vraiment sur le dessin, et que je vois finalement que ce que je disais, faisait en rapport avec ça, pouvait avoir du sens pour d'autres. Que l'humanité n'était peut-être pas aussi conne que ça si des gens comme moi pouvaient témoigner et laisser leurs petites traces.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Un extrait du documentaire 13 novembre, nos vies en éclats, à retrouver sur France Télévisions. Il a été diffusé lundi, il sera de nouveau diffusé évidemment. On le conseille, nous sommes en compagnie de la réalisatrice Valérie Mans.
Oui, donc nous parlions du fait que c'était extrêmement important notamment pour les rescapés, les familles d'endeuillés, de pouvoir se retrouver dans des collectifs, que il y avait la possibilité d'avoir des liens très forts, de la même manière que beaucoup d'entre eux ont cherché à retrouver ceux avec lesquels ils étaient dans les lieux. Voilà, c'est un rôle très important et qui se poursuit aujourd'hui. De retrouver un lien fort qui permette aussi d'échanger sur la mémoire de ce qui a eu lieu et possiblement aussi de reconstituer ce qui s'est passé, de savoir où ils étaient, dans quelle posture, à quel moment.
Sarah Ginsburger, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit sur ce morcellement justement d'histoire individuelle.
Oui, ben, c'est vrai que quand j'entendais la description de comment le souvenir des otages s'est... Le souvenir collectif s'est constitué, c'est une parfaite description du fonctionnement social de la mémoire. En fait, on ne se souvient jamais seul, et il n'y a pas vraiment d'événement premier, parce que même la manière dont les uns et les autres ont vécu les événements, c'est aussi déjà orienté, programmé par qui ils sont, par leur origine sociale, leur façon de voir le monde et les interactions qu'ils ont pu avoir. Et ça va se poursuivre après dans la manière dont ils vont construire leurs souvenirs. Je voulais revenir sur la question de parler pour les autres. J'ai trouvé ça très beau dans la manière dont vous avez présenté le processus du documentaire, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas capable de parler pour les autres, socialement parlant. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont un certain nombre de ressources, vont se penser légitimes et vont se mettre dans une posture de parler pour les autres et d'autres pas du tout. Notamment, par exemple, selon si on est un homme ou une femme, selon son niveau d'études, bon, beaucoup de critères. Et donc là, ce que vous décriviez, c'est que vous, vous avez en fait mis quelque part tous ces témoins à égalité dans ce processus créatif, mais ça, c'est vraiment une démarche d'écriture, parce que c'est pas comme ça que ça se passe au niveau des témoins. Et l'autre chose, du point de vue de la sociologie, que je trouve très intéressant, c'est dans l'extrait qu'on a entendu, il y a eu des témoignages qui ont été enregistrés sur plein d'autres événements de l'histoire, notamment les bases de témoignages sur les rescapés de la Shoah, par exemple. Et la spécificité, je pense, du programme 13 novembre et des récits qui ont été enregistrés, c'est que non seulement il y a des récits sur les événements eux-mêmes, sur la vie d'après, mais il y a aussi une réflexion que les témoins ont sur la façon dont ils racontent, au second degré. Et ça, c'est assez rare dans toutes les collections qui existent. Et ça veut dire aussi quelque chose de spécifique, ça veut dire que le 13 novembre s'est passé à un moment où il y avait déjà une thématique de mémoire, une société qui s'intéressait à ces questions, des médias qui avaient déjà traité...
Il y avait une sorte de maturité par rapport à cela.
Exactement. Déjà, en fait, une sorte de format, de cadre qui existait, y compris médiatique, y compris le fait de faire des mémoriaux dans les médias avec tous les visages des victimes. Tout ça, c'est aussi des cadres, des formats qui préexistaient, qui ont été adaptés, qui ont été retravaillés. Hein. Bien sûr, ils n'ont pas été plaqués, mais en écoutant vraiment, je me suis dit, ah oui, ça c'est... C'est rare, c'est assez unique.
Et puis aussi le fait qu'il y a eu une sorte de libéralisation de la parole très tôt. On l'a recueilli, même sur le programme, c'est seulement 7 mois après les attentats.
Absolument. Ce que je voudrais dire, c'est que justement, dans ce film documentaire, tout ce qui est les récits de ce qu'ils ont, donc de ce qu'ils ont vécu, j'ai beaucoup gardé les récits de 2016, puisque 7 mois après, c'était extrêmement présent. Alors que lorsqu'on avance, j'ai plutôt pris les récits des années 18 et 21 pour raconter justement la façon dont ils vont se décaler par rapport à leur propre récit. Ce qui est fascinant dans ce programme, c'est que non seulement ce sont des récits sur ce qu'ils ont vécu pendant les événements, mais c'est aussi leur rapport à leurs propres émotions, la manière dont ils ont vécu les jours suivants, les mois suivants, les années suivantes, et la façon dont ils ont tenté de se reconstruire. Donc c'est aussi bien une mémoire, par rapport à la mémoire collective, une mémoire des faits, c'est-à-dire plusieurs récits racontent ce qui s'est passé, mais c'est aussi et avant tout une mémoire humaine, c'est-à-dire la mémoire des émotions, la mémoire du ressenti et la manière dont ces êtres se sont battus pour s'en sortir. Et donc c'est aussi ces récits-là qui sont très présents et qui permettent de raconter la mémoire des attentats.
Marie Chagnoux, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je voulais réagir, notamment j'y pensais à travers ce format des mosaïques qu'on a effectivement vu. Dans les médias, pour rappeler aux auditeurs, on avait toutes ces photos, ou des photos manquantes, puisque les familles n'avaient pas voulu justement que le visage apparaisse. Mais finalement, ces mosaïques d'images représentent très bien ce qu'on a eu dans les médias, avec plein de récits côte à côte pour essayer d'expliquer ce qui est fait dans le documentaire, ce qui est fait partout. C'est par le récit singulier qu'on va aborder ça. Et ce format de mosaïque de visage, c'est un genre qui est né au moment du 11 septembre, et quelque part, le 11 septembre, c'est une matrice où on va avoir des nouveaux formats médiatiques, et puis c'est aussi une évolution, vous l'avez dit tout à l'heure, du statut de victime. Si on prend des événements du 20e siècle, on va peut-être davantage, du point de vue médiatique, s'intéresser aux bourreaux, et les victimes n'ont pas forcément la parole. Alors que là, on est dans des formes médiatiques qui ont pris l'habitude de donner légitimité à la victime, et on le voit aujourd'hui lors des commémorations, on parle des victimes, on ne parle pas des terroristes ou voilà. C'est aussi un changement de statut, je pense, des actants qu'on va choisir dans l'actualité pour essayer de comprendre l'événement.
On en reparlera peut-être dans un instant justement de cette question du pourquoi, des raisons aussi des terroristes qui sont peut-être un peu occultées. Jean-Xavier de Lestrade, aussi, ce qui vous semblait, vous, un peu pas assez traité, c'était la reconstruction. C'est pour ça que vous avez aussi fait une série sur ce qui se passe après. On a beaucoup traité effectivement du moment, mais peut-être pas assez, du moins je crois que ça a été aussi l'une de motivations de cette fiction, de raconter les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, finalement, comment on arrive à reprendre la vie.
Oui, oui, c'était le but. C'était sur une série de 8 heures, il y a une heure à peu près sur les faits, sur ce qui s'est passé dans le Bataclan, mais il y a 7 heures sur ce qui se passe après. Et je ne sais pas si ça... Je pense qu'il y a des documentaires qui l'ont couvert, des reportages, des livres, beaucoup de choses qui ont été publiées, mais la fiction permet d'avoir comme ça une série, toute une trajectoire de personnes, de personnages, et d'avoir une perspective sur presque 8 ans. Et c'est ça qui était aussi, c'est ça qui était vraiment passionnant à raconter, et surtout raconter qu'au fond, là, on avait 7 personnes dans ce couloir qui ont a priori vécu la même violence, le même type de violence, et ces 7 personnes vont ensuite réagir de 7 manières différentes. Mmh. Le trauma va vivre en eux, va s'exercer, mais alors, manière, même dans un couple, où on a un couple qui est Marie et Arnaud, Arnaud va s'effondrer complètement. Marie va retourner au boulot 48 heures après, enfin le lundi matin, elle est au boulot et elle est en train de faire rire ses collègues qui sont au bord des larmes. Elle a dit surtout pas ça. Donc, c'est ça qui était aussi. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas une victime type, il n'y a pas une manière de se comporter aussi pour l'entourage. Il n'y a pas de mode d'emploi de comment on gère les émotions de quelqu'un qui a été victime, qu'on soit à la place des proches, des parents, des amis. Il n'y a pas de mode d'emploi. On ne sait pas faire, hein, en tout cas. Mmh. On ne sait pas faire parce qu'il y a autant de réactions que de victimes. Et ça, c'est ça que je pense que c'est important à montrer, et important aussi de ne pas oublier qu'au fond, je pense qu'on ne guérit jamais de cette chose-là. On n'en guérit pas, on apprend à vivre avec, plus ou moins difficilement, on accepte plus ou moins, on apprend donc, mais on ne guérit pas. Mmh. Ça, pour tout le monde, je pense qu'il faut pas oublier ça.
Valérie Mentz.
Oui, dans cette idée de justement, comme vous disiez Jean-Xavier, de pouvoir, grâce à la fiction, travailler sur le temps et sur la reconstruction, ce programme 13 novembre et ce que raconte le film, c'est aussi ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir 6 années pendant lesquelles il y a donc 3 entretiens sur ces 6 années, ça permet justement de travailler sur tout ce processus, les jours d'après, les mois d'après, les années d'après, sur la reconstruction. Et par ailleurs, c'est aussi de voir physiquement ce qu'ils deviennent, comment ils se transforment.
Ça, c'est frappant. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui en perdent. On sent les traits qui se durcissent. Alors, on pourrait imaginer que chacun d'entre nous, pas la peine d'avoir vécu des attentats pour avoir un visage qui évolue en quelques années, mais là, forcément, on les regarde différemment.
En 6 années, leur corps imprime et porte la trace de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est extrêmement frappant. Et c'est aussi non seulement d'avoir ce temps qui permet d'avancer sur la reconstruction, mais aussi de travailler sur les traces, évidemment, des traumatismes, et aussi de pouvoir montrer, grâce à ce programme et à ce film, la manière dont eux pensent et réfléchissent à leur propre mémoire. Et c'est à ce titre aussi que ça crée, en fait, une mémoire collective.
Alors, la grande question qu'on posait aussi dans le cadre de cette émission, c'est celle de l'émotion, du rôle de l'émotion par rapport, justement, à la fabrication, à notre mémoire, à la constitution même de notre mémoire. Il y a évidemment de l'émotion dans votre documentaire, Valérie Mentz. Il y a de l'émotion, évidemment, dans votre série, Jean-Xavier. Comment cette émotion, elle peut se mettre au service, est-ce qu'elle est toujours la bonne alliée pour constituer justement une mémoire, Sarah Guindberger?
Alors, d'abord pour souligner, pour reprendre ce que disait Marie, qu'on est quand même encore dans le temps de l'émotion, même du point de vue médiatique. Si on s'interroge sur quel type de photos sont utilisées pour évoquer, par exemple, là, les 10 ans des attentats, c'est beaucoup des mémoriaux éphémères, donc des messages d'émotion. C'est pareil, c'est au second degré, des signes d'émotion qui avaient été placés dans l'espace public. Et donc, on est encore un peu dans ce registre. Pourquoi ? Parce que le registre de l'émotion, bon, il est engageant. Et les gens partagent des émotions. Donc, finalement, les émotions, elles ne sont pas forcément un point de vue moral ou politique sur les événements. Elles restent au niveau quand même des émotions, de la souffrance, de la compassion, du concernement. Donc, c'est quand même un niveau où on peut quand même partager facilement. Si on passe à un autre niveau, si on se éloigne un peu de l'émotion et qu'on essaye de dire, par exemple, quel sens on donne aux attentats, au 13 novembre en particulier, mais bon, de manière plus générale, quelles interprétations on leur donne, quelles leçons on doit en tirer, là, il va y avoir plus de divergences. Et les enquêtes aussi conduites par le programme 13 novembre en partenariat avec le CREDOC, qui sont sous la forme d'une enquête d'opinion, pour le dire vite, d'un sondage, montre qu'il y a quand même une certaine divergence d'interprétation des attentats parmi la population en fonction de son positionnement politique, en fonction de son niveau socio-économique, en fonction de son genre. Et donc là, on ne peut pas déduire de l'émotion en fait un impact particulier du point de vue sociopolitique.
Juste, je vais vous donner la parole dans un instant, Marie Chagnoux, mais pour revenir sur l'émotion à l'un à l'autre, vous qui êtes tous les deux réalisateurs et réalisatrices, quels soucis vous avez eu justement dans la représentation de cette émotion, que ce soit par la fiction ou par le documentaire, quelles limites peut-être vous vous êtes données pour ne pas aller trop loin, parce qu'on peut vite passer de l'émotion au sensationnalisme, les événements pourraient le permettre, ils sont violents. Comment vous avez travaillé cette question-là, Jean-Xavier ?
C'est forcément une question centrale, parce que de l'émotion, elle affleure tout le temps. Elle affleure tout le temps, mais même c'est une problématique pour les comédiens. Parce que interpréter ces personnages, être si proche du réel, être dans les pas de victimes, ça pouvait poser problème. Et il y avait un souci qui était précisément, il faut se garder d'être à une bonne distance de l'émotion. Il ne faut pas aller dans le lacrymal. Il ne faut surtout pas prendre en otage le spectateur qui regarde et, émotionnellement. Et pourtant, là, l'émotion, elle guette tout le temps, et on ne sait pas à quel endroit elle va poindre, elle va saisir la personne qui regarde. C'est, en tout cas, ça a été une préoccupation constante dans le travail d'interprétation avec les comédiens, de surtout ne pas aller dans la pente presque naturelle. Parce que effectivement, même si on est aujourd'hui 10 ans après, mais on se rend compte à quel point finalement l'émotion vécue par les gens la nuit du 13 novembre, elle est toujours extrêmement prégnante, elle est toujours extrêmement présente. Et quand on commence à parler du 13 novembre, ce qui surgit, ce n'est pas de l'information, ce ne sont pas des faits, c'est de l'émotion.
Et d'ailleurs, parfois, ça peut créer de l'évitement, Marie Chagnoux. On voit, d'ailleurs, beaucoup de gens autour de nous disent « moi, je ne peux plus regarder ». D'ailleurs, je n'ai jamais pu regarder, en tout cas, je ne peux pas regarder. Comment ça se ressent, justement, ça ? Il y a une exposition, une couverture médiatique qui est forte, ou encore plus ici, puisque c'est les 10 ans.
Je vais reprendre le terme qui vient d'être utilisé, d'otage, où effectivement, pour beaucoup de téléspectateurs ou de personnes qui ont consulté les médias, il y a eu ce sentiment d'être pris au piège d'un spectacle terrorisme, où en fait on était dans cette intensité, dans ce suspense que j'évoquais tout à l'heure, avec des difficultés à s'en dégager. Quand on a fait les entretiens, on a un certain nombre de personnes qui nous ont dit avoir appris des attentats de Charlie Hebdo et avoir volontairement choisi un autre chemin médiatique, c'est-à-dire avoir décidé de couper BFM, par exemple, ou s'être dit je regarde simplement sur les réseaux sociaux et demain je consulterai des médias qui pourront m'expliquer ce qui se passe. Donc il y a eu du point de vue médiatique une sorte d'apprentissage au moment de Charlie Hebdo où les gens ont été extrêmement impactés. Et on sait aujourd'hui, il y a des études qui montrent que la médiation technologique du trauma, elle peut construire et alimenter la condition traumatique de personnes qui n'ont pas vécu les événements. C'est-à-dire que par procuration médiatique, on a des gens qui vont regarder et qui vont avoir, souvent parce que ça fait écho à des histoires personnelles, on a perdu un enfant,
ou à des peurs
où on a vécu quelque chose de violent, et on va avoir des syndromes de stress post-traumatique de gens qui n'étaient pas présents sur les événements et qui relèvent du cercle 4.
Ça, c'est intéressant, parce que finalement, il me semble en tout cas que c'est l'ambition, l'objectif des terroristes, c'est de terroriser, par définition. Donc finalement, avoir un fait commis à un endroit qui va se propager par la puissance de la médiation.
Alors, ça a alimenté beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut médiatiser, est-ce qu'on médiatise. Et vous avez des collègues en sciences politiques qui montrent que c'est justement là où on va avoir une différence. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de spécifique dans ces attentats-là. C'est que ces attentats sont censés provoquer un ralliement de gens qui iraient à leur tour se faire sauter dans des lieux. Et en fait, ce qui a été montré dans les médias a plutôt entraîner de l'empathie et une forme de rassemblement de personnes qui se sentaient victimes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur métier, quel que soit leur âge, et donc a eu un effet plutôt contre-productif du point de vue médiatique.
Valérie Mantes.
Oui, je voulais revenir sur la notion d'émotion. De mon point de vue, il y a eu beaucoup d'émotions quand j'ai tourné sur les terrasses et au Stade de France. Voilà, il y a une très grande émotion des lieux. J'ai essayé d'en faire des lieux de mémoire. Quand on parle aux personnes qui sont dans ces lieux, c'est extrêmement fort. Et puis j'ai cherché les traces de ce qui avait eu lieu, j'ai cherché les fantômes des disparus. Donc là, l'émotion est encore très très grande. Après, dans mon film, comment j'ai travaillé sur l'émotion, pour moi, l'émotion, elle a permis deux choses. Elle a permis, d'une part, la transmission, puisque l'enjeu est bien de transmettre, pour ne pas oublier. Et aussi, cette émotion, elle a permis de rendre accessible l'humanité de ces volontaires. C'est-à-dire que je crois que, et j'espère que ce film est aussi une expérience collective, et chaque téléspectateur qui le regarde peut à ce titre participer à cette œuvre collective de mémoire en étant confronté à ces témoignages réel de ces personnes qui ont donc accepté de parler à trois reprises. Et je crois qu'en réalité, on sort différent après ce film. Enfin, je l'espère, parce que j'ai cherché toujours des éclats de lumière. Et c'est difficile, puisque tout est très sombre.
Mais justement, ça c'est intéressant, excusez-moi de vous couper, oui. Parce qu'on pourrait, l'un comme pour l'autre, se poser cette grande question, à quoi ça sert? Parce que vous dites effectivement, ne pas oublier, on peut considérer que la mémoire est vive, et de se dire, mais pourquoi moi, je vais, pendant 1h30, regarder des témoignages des gens qui vont me remuer, je connais l'histoire, je la connais, à quoi ça sert?
En fait, je pense que ça fait sens, en fait. Ça crée du sens là où il n'y en a pas. Ces attentats, c'est le chaos, la déflagration, la douleur, la souffrance, ça n'a aucun sens. Eh bien, d'accepter de parler, d'accepter d'être dans une mémoire qui couvre tous les lieux, tous les cercles, et qui donc couvre l'ensemble de la société, c'est une manière de donner du sens à ce qui n'en a pas. Et je crois que l'enjeu, il est là.
Donner du sens à ce qui n'en a pas, Jean-Xavier de Lestrade, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit vous aussi, oui. À quoi ça sert?
Bah, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que voilà, la violence extrême dont nous avons été tous témoins le 13 novembre, c'est du chaos, ça provoque la sidération, ça provoque une émotion qui submerge, qui engloutit. Et là, on est perdu au milieu de ça. On peut pas se défendre. Or, tout travail artistique, je pense, a pour but de mettre de l'ordre dans ce chaos, d'organiser les émotions, de faire... Et vous parliez tout à l'heure de l'émotion qui peut y avoir dans les œuvres, et là, singulièrement, il y en a beaucoup dans Des Vivants, mais cette émotion, ça permet aussi à purger, enfin je pense, purger le trop-plein des émotions vécues à ce moment-là. On le vit par procuration, on le vit à travers des personnages, parce que voilà, c'est la fiction, c'est la représentation, ce sont des comédiens. On sait que quelque part c'est pour de faux, en même temps c'est pour de vrai, et ça permet quand même, je pense, de revivre ces moments-là, mais de le revivre en les mettant à distance, en disant « Ah oui, c'est bien mon histoire, j'ai bien vécu ça, mais je peux peut-être là la regarder à un autre endroit. » Et voilà, enfin, je pense que tout ça sont des pierres qu'on donne et qui permettent de faire sens.
Sarah Ginsburger, ça finit où cette mémoire du 13 novembre?
Ah ben, ça finit... Ou je sais pas, quand non plus, je sais pas. En fait, ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la mémoire du 13 novembre, c'est une mémoire d'un événement, mais elle est vraiment aussi structurée par énormément de choses qui se sont passées avant et des choses qui se sont passées depuis. Il y a quand même une temporalité, c'est que si on se place du point de vue des associations de victimes, donc les deux grandes associations de victimes du 13 novembre sont 13-11-15 et Life for Paris, je pense qu'elles considèrent qu'on est à la fin d'un premier cycle, celui des 10 ans, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu le procès, et on n'en a pas parlé, de la médiatisation du procès. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est ressorti dans...
Du quoi, dans le série, effectivement, le procès est à la fois un point final et un point de départ, effectivement.
Voilà, exactement. Mmh. Et donc là, on est aussi dans ce registre. Par exemple, Life for Paris envisage de déposer ses archives aux Archives nationales, donc, parce qu'elle considère qu'entre le procès et les lieux de mémoire qui sont en train d'être finalisés, finalement, il y a un premier temps qui s'est arrêté. Et d'ailleurs... je pense que ça touche aussi à la question médiatique. On va avoir l'inauguration, et c'est déjà ouvert, mais elle va être officiellement inaugurée, du jardin mémoriel derrière l'hôtel de ville pour les victimes du 13 novembre. Et ça va marquer aussi une étape, parce que normalement, pour les commémorations, et d'un point de vue médiatique, c'est important, il n'y a pas de discours politique. Il y a une déambulation devant tous les lieux touchés le 13 novembre, et la convention qui est non dite entre les associations et le monde politique, c'est qu'on ne parle pas politique, on ne parle pas devant les lieux. Convention qu'a rompu Éric Zemmour
devant le Bataclan, il me semble.
Devant le Bataclan, et sur lequel les associations ont vivement réagi. Or, maintenant que ça va être déplacé, il y a un lieu de mémoire qui est hors des lieux. Il va y avoir, et si vous passez, vous verrez qu'il y a une tribune très volumineuse qui est en train d'être construite. Il va y avoir là une cérémonie comme on les connaît. Et donc là, il va y avoir des prises de parole politiques. Donc ça va aussi marquer un temps, je pense, nouveau, dont je vais voir ce qu'il en est, mais un temps nouveau qui va un peu décaler la prise de parole. Parce que, et là, le rapport entre politique et émotion, il est un peu incontrôlable aussi. Les études du CREDOC et du programme 13 novembre montrent que le sentiment, quand même, l'émotion, le sentiment que les Français, en moyenne, disent avoir ressenti du fait des attentats, c'est quand même la peur, maintenant. Donc ça, c'est pas une émotion qui est toujours bonne conseillère non plus, si je...
Par contre, c'est une émotion qui est plutôt opportuniste et intéressante pour certains politiques qui se saisissent évidemment de la peur. Marie Chagnoux, justement, on parlait de ces 10 ans comme étant d'une étape, que ça ouvrait un nouveau cycle. Peut-être que ça va être le moment aussi de questionner le pourquoi, parler des motivations de ces attentats, enfin... Qu'est-ce que vous pouvez imaginer ou attendre de ce nouveau cycle par rapport peut-être aux angles morts qui ont été jusqu'ici mis en place par rapport à la couverture de l'événement ?
Alors, quand on est scientifique, on n'attend rien, on observe. Donc, je n'en attends rien. Par contre, c'est avec une grande curiosité que je nous écoute aujourd'hui, parce que là, on est dans une espèce de mise en abîme. On fabrique de l'information sur des
c'est
choses.
C'est le titre de l'émission, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est pour ça que je me réjouis de cette émission. Je voulais revenir sur les procès. On n'en a pas parlé, alors qu'ils sont fondamentaux dans la mémoire individuelle et collective. Je vais faire très vite parce que je pense qu'il nous reste peu de temps. Les procès ont été l'occasion d'une couverture médiatique comme jamais. On n'avait jamais eu autant d'accréditations. Il y a eu des nouvelles inventions technologiques, de suivi, de narration. On a des podcasts qui ont été faits, qui ont expérimenté de nouvelles manières de travailler l'information avec l'émotion. Et forcément, comme la mémoire de cet événement reste fortement médiatique, on avait une disparition lors des entretiens de certaines choses qui sont apparues, retransformées au moment des procès, en fonction de ce qui avait été dit au procès. Mais sauf encouragement de votre part, je vais m'arrêter là.
Ah bah, je vous encourage évidemment à continuer, nous continuerons, parce que cet événement mérite qu'on s'y attarde davantage. Mais comme vous le savez, on est tous rattrapés par le temps.
France Culture, la fabrique de l'information.
Le temps de voyager, de prendre aussi un peu notre distance, de quitter le studio avec vous, Daniel Bastard, journaliste à Courrier International. On part en direction de la République tchèque, qui vient de légaliser l'usage thérapeutique de la psilocybine.
Oui, on en parle cette semaine dans les pages science de Courrier International à travers un reportage tiré de l'hebdomadaire Respect. Respect, c'est le titre de référence de la presse tchèque. Et l'article commence en ces termes. Tout à coup, vous réalisez que chaque problème a une solution. Vous ne savez pas laquelle, mais vous savez qu'elle existe et que vous avez le temps de la trouver. Ces mots, c'est un certain Vladimir qui les prononce. Dépressif sévère, à l'approche de ses 70 ans, il a suivi un traitement à base de psilocybine. La psilocybine, c'est un principe actif qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes. En gros, c'est ce qui vous fait voir des jolies fleurs et des petits éléphants roses après en avoir ingurgité. Or, Vladimir, lui, il n'était certainement pas partant pour ça. Il ne fume pas, il ne boit plus une goutte d'alcool, alors les drogues psychédéliques, les champignons magiques, très peu pour lui. Oui, mais voilà. Cela faisait des années qu'il traînait cette satanée dépression. Une dépression contre laquelle tous les antidépresseurs, tous les anxiolytiques, tous les antipsychotiques du monde n'ont jamais rien pu faire. Alors un jour, son médecin traitant lui a parlé d'une étude menée par l'Institut tchèque de santé mentale à base de psilocybine. Et Vladimir a fini par se laisser convaincre. Il a avalé un comprimé, s'est allongé sur un divan confortable, les yeux bandés, une musique douce dans les oreilles et bien sûr un médecin pour contrôler tout cela. Alors, l'expérience a commencé. Vladimir s'est mis à voir des sons, à entendre des couleurs, puis des questions existentielles sont apparues. Et petit à petit, le besoin de classer toutes les décisions d'une vie comme bonnes ou mauvaises s'est évanoui, explique-t-il. Je me suis rendu compte qu'un échec n'est pas une fin en soi, que la perspective est plus vaste. Et toutes les pièces se sont ainsi emboîtées les unes dans les autres.
Et ce témoignage, Daniel, s'inscrit dans ce qu'on appelle une renaissance psychédélique.
Oui, et ce n'est pas un hasard si c'est en République tchèque que la presse parle de cela. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était encore la Tchécoslovaquie communiste était en pointe sur ce type de recherche, derrière des psychiatres de renom, comme le docteur Stanislav Grof, une sorte de père fondateur qui mènera ensuite des expériences aux États-Unis. Et suivant une certaine logique, la Tchéquie d'aujourd'hui est devenue cet été le premier pays de l'Union européenne à légaliser l'usage de cette psilocybine en psychothérapie. Prague rejoint l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse à l'avant-garde du combat pour la légalisation de ce traitement que beaucoup considèrent comme l'un des principaux espoirs pour la psychiatrie du XXIe siècle, explique le journal Respect.
Un espoir donc pour la psychiatrie, qu'est-ce qui rend ce type de traitement si révolutionnaire ?
Eh bien, ces substances psychédéliques agissent selon un principe différent de celui des médicaments traditionnels. Elles permettent non seulement d'atténuer les symptômes des troubles anxieux ou dépressifs, mais surtout, elles peuvent agir sur les causes. Lesquelles causes sont, on le sait, en cas de dépression, extrêmement profondes, enfouies au plus profond de l'être. Or, avec la psilocybine, l'effet thérapeutique est déclenché par l'expérience vécue, par la façon dont le patient change la perception qu'il ou elle a de sa vie. Il y a une sorte de prise de conscience. L'individu peut alors penser à des choses qui étaient autrement inconcevables, résume l'article. Alors attention, l'idée n'est pas de boulotter des champignons hallucinogènes tout seul dans sa cuisine. Il faut un protocole minutieux avec une préparation, un encadrement et un suivi thérapeutique. Mais sans être une panacée, les résultats sont extrêmement encourageants pour les patients souffrant de dépression, les personnes atteintes de maladies incurables, mais aussi pour traiter les addictions, les troubles alimentaires ou les syndromes de stress post-traumatique. On y revient. C'est comme un moyen, sinon de réparer, du moins de démêler la mémoire traumatique. Et comme dit Vladimir, de prendre conscience que chaque problème a sa solution.
Merci beaucoup Daniel, une chronique à retrouver sur le site de Courrier International ainsi que sur le site de cette émission, La Fabrique de l'Info. Sur France Culture, il nous reste peut-être une minute. Valérie Mans, est-ce que, puisque justement Daniel parlait de chaque problème a aussi sa solution, dans le documentaire que vous venez de réaliser, vous avez peut-être déjà eu des retours sur sa réception, des gens qui vous ont dit quoi ?
La réception est assez exceptionnelle. Je crois que je suis très frappée de savoir que beaucoup de téléspectateurs, notamment en replay, il y a beaucoup de... Je crois que c'est le troisième programme le plus vu actuellement. Les téléspectateurs affrontent le réel, la violence du réel, la souffrance. Et en même temps, je crois qu'il y a quelque chose de qui va au-delà, qui est donc cette humanité, ce sens. Et donc, j'ai l'impression que ces expériences de vie sont transmises. Et à ce titre, j'en suis très heureuse.
13 novembre, Nos vies en éclats, donc à regarder sur France Télévisions, réalisé par Valérie Mans, Jean-Xavier de Lestrade, Des vivants, en diffusion en ce moment sur France Télévisions, sur France 2, à regarder également en replay. Sarah Ginsburger, merci d'avoir été avec nous. Marie Chagnou, merci également pour vos analyses médiatiques. Je rappelle aussi une autre source, le livre Faire face des Français, les attentats du 13 novembre 2015. C'est paru aux éditions Flammarion, avec notamment Denis Péchanski, dont vous parlez, Francis Eustache ou Sadra Oubian. Vous en avez parlé justement, Sarah, lorsque vous évoquiez le Crédoc et la réception. Je remercie à la préparation de cette émission Joséphine Reinhardt, à la réalisation Serge Leroy, à la vidéo Rubert Carmazine, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine.